Session de théologie du Père Philippe à Saint-Chaudard, le 12 août 88, conférence de l'après-midi.
L'eau exprime la vie, exprime la créature, exprime la bonne volonté. L'eau. Changement de l'eau en vin, Cana. Et c'est les serviteurs qui remplissent d'eau les jarres. Donc l'eau est toujours le symbolisme de la bonne volonté humaine, de la capacité humaine d'aimer, et en même temps de la vie. Le sang, l'avions vu hier, c'est l'âme. C'est quelque chose qui est ultime, dernier. Changement de l'eau dans le vin et le vin changé dans le sang du Christ. L'eau et le sang expriment donc le don absolu que Jésus réalise sous l'action de l'Esprit-Saint. L'eau, le sang, l'Esprit, il y en a trois qui rendent témoignage. Il faut que les dernières gouttes de sang soient versées et les dernières gouttes d'eau soient versées pour exprimer l'Holocauste parfait, radical, l'amour dans ce qu'il a de plus fondamental et l'amour dans ce qu'il a d'ultime. Je crois que c'est cela. Voyez, ce serait intéressant, parce que c'est toujours intéressant de faire des rapprochements à l'égard de ces différents symbolismes. Il y a le pain et le vin, il y a l'eau et le sang. Et ça, je crois qu'il y a des rapprochements importants et intéressants à faire. Le pain et le vin, les deux nourritures. Les deux nourritures extrêmes, les deux œuvres, j'allais dire artistiques, de l'homme par excellence. Ça exprime symboliquement toutes les œuvres artistiques de l'homme, le pain et le vin. Le pain, c'est ce qu'il y a de plus nécessaire. Vous ne pouvez pas refuser du pain à un mendiant qui vous en demande. Quand un mendiant vous demande du vin, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Surtout quand il sent déjà un peu l'alcool. Lui refuser, c'est très gênant, parce que c'est peut-être sa seule joie. Que vous allez refuser un petit peu de joie à un pauvre type, il trouve sa joie que dans un petit peu, un peu de vin. Le vin, ce n'est pas le nécessaire, c'est la surabondance. On peut faire un repas sans vin, mais quand on fait un repas avec le vin, ça exprime la fête, la surabondance. Oui. Et ceci exprime admirablement l'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus nécessaire et c'est la surabondance. L'amour est toujours la surabondance. Et l'amour est toujours ce qui est le plus nécessaire. C'est les deux. Alors, je ne dirais pas l'homme et la femme, vous voyez. C'est ce que vous pourriez dire. Il y aurait des symbolismes à faire. Le pain et le vin. Et c'est pour ça que Jésus choisit ce symbolisme-là. Dans le don qu'il fait de tous les mêmes. Alors, il y a un lien entre l'eau et le sang. Mais voyez la différence. L'eau et le sang coulent de la blessure du cœur de Jésus. Ce n'est pas une œuvre artistique. Jésus ne s'est pas servi de l'eau et du sang, mais du pain et du vin pour l'Eucharistie. Parce qu'il a voulu se servir d'une œuvre de l'homme. Le travail de l'homme est sanctifié, assumé dans son fruit par l'Eucharistie. Travailler, non pas pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture que vous donne le Fils de Dieu, de l'homme. Dans Saint Jean, c'est Jésus qui dit ça. On travaille pour le pain et le vin. Tout chrétien travaille pour le pain et le vin, même quand il est uniquement à son bureau, pour des choses tout à fait différentes. Symboliquement, c'est pour le pain et le vin. Et ce pain et le vin est offert à Dieu et il est transformé substantiellement dans le corps et le sang du Christ. Mais c'est très très beau de voir l'aspect liturgique qui saisit l'homme dans son travail. C'est le propre de la liturgie. La liturgie, ce n'est pas la contemplation. C'est le travail de l'homme qui doit être assumé. Vous travaillez dans la prière liturgique. On reste debout, non pas assis. Vous voyez, c'est significatif. Assis, hein, vous vous reposez. Debout, vous êtes toujours prêt. Il y a une espèce de signification. On a beaucoup réfléchi là-dessus. On a vu que c'était à partir d'un certain moment que les chanoines s'asseyaient. Et qu'à partir de là, c'est pour ça qu'on a mis les miséricordes. Ils étaient debout, ils étaient fatigués, alors ils s'appuyaient derrière. Ils étaient les miséricordes pour les pauvres vieux chanoines. Puis après, on a mis simplement, ils sont assis. Ils sont assis. Puis maintenant, on met des fauteuils. Curieux. La liturgie est une œuvre qui implique un facere, qui implique un travail. Et ceci est exprimé par le pain et le vin. Mais c'est une œuvre humaine assumée par le Christ et transformée par le Christ avec la présence de Jésus. Tandis que l'eau et le sang, c'est quelque chose de naturel. Quelque chose de naturel. Mais c'est lié quand même à la vie. L'eau exprime l'aspect fondamental de la vie, condition sine qua non pour la vie. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Ceux qui ont été dans la Lune, nos chers cosmonautes, puisque nous avons été dans la Lune grâce à eux, l'humanité a été dans la Lune grâce à eux. Eh bien, quand nous avons été dans la Lune, nous avons regardé s'il y avait de l'eau. Et on n'a pas trouvé d'eau. Pas de vie. La condition sine qua non pour la vie, c'est l'eau. Et c'est en ce sens-là que l'eau symbolise la vie. Mais dans ce cas-là, de tout à fait élémentaire. Et le sang exprime la vie, non plus dans ce cas-là de tout à fait élémentaire, mais la source de la vie, l'âme. Vous voyez, je dirais l'âme est le fondement, condition sine qua non. Donc c'est le fondement, l'eau et le sang. Mais toutes les deux sont reliées à la vie. Tandis que le pain et le vin, tous les deux sont reliés à l'amour. Mais ce jeu des symbolismes, la vie n'est pleinement vie que dans l'amour. Alors voyez comment je peux me servir de ces différents symboles pour essayer de comprendre les niveaux différents. Pourquoi situer cet événement après que Jésus rende l'âme? Ah oui, il y a là quelque chose de très beau. C'est la question de Catherine, Catherine de Sienne, au père. Les petites filles ont un pouvoir extraordinaire sur leur père, peuvent tout demander, tous les secrets. C'est toujours comme ça. C'est merveilleux. Et Catherine de Sienne demande au père, pourquoi le coup de lance? Inutile. Et je crois que c'est très important. Et Jean le donne. Et c'est l'ultime moment de la révélation. C'est quand même quelque chose de grand. Alors, voyez, on entre un peu dans ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Ça n'a pas d'importance. Pour que le sacrifice du Christ soit parfait, il faut que Jésus soit une victime parfaite. Pour être une victime parfaite, il faut être une victime qui soit blessée d'une blessure substantielle, d'une blessure qui conduit à la mort, d'une blessure qui provoque la mort. Toute victime meurt dans la violence. Et quand vous mourrez de votre belle mort, comme on dit, avec des bons coussins, chaud, mais votre corps se refroidit, vous mourrez de votre belle mort. Ne dites pas, regardez cette victime. Non, non. Ce n'est pas un état victimal. L'état victimal, c'est celui qui reçoit le coup. Oh, la victime. Et un coup qui blesse à mort. Pour que Jésus soit une victime parfaite, il fallait qu'il y ait une blessure mortelle. Aucune autre blessure n'était mortelle. C'est une mort à petit feu. C'est la mort de pendaison, liée à la flagellation et aux blessures de la crucifixion. Et d'autre part, il fallait que Jésus offre librement sa vie. Les deux. Puisqu'il meurt dans l'obéissance. Et donc il ne meurt pas dans la violence. Vous voyez, il y a une espèce de contradiction qui est très très belle, tu laisses à regarder. Pour que le sacrifice de la croix soit parfait, il fallait les deux. Il fallait à la fois qu'il offre sa vie et qu'il l'offre librement. Et pour offrir sa vie librement, ben, il fallait nécessairement qu'il ne meure pas d'une façon violente. Celui qui meurt d'une façon violente n'offre pas librement sa vie. Du moins, ce n'est pas manifesté. Il peut l'offrir si, entre le coup et la mort, il y a conscience. Pas toujours. Il est assommé. Et donc il fallait à la fois que Jésus offre librement sa vie avant le coup de lance. Et il fallait qu'il soit victime parfaite le coup de lance. Et alors là, vous découvrez cet ordre de la sagesse. Tout est consommé. Voilà, l'offrande de sa vie libre. Et après cela, le coup de lance. Je me demande toujours si d'interrogation. Si la mort de Jésus sur la croix n'est pas pour nous cause exemplaire, l'archétype. De la mort de l'humanité. De la fin du pèlerinage des hommes sur la terre. Il y aura bien un moment, comme il y a eu un premier homme, il y aura bien un moment où il y a le dernier. Ou bien les derniers, si ça se fait subitement. Tous en même temps, pas par l'euthanasie, parce que c'est par l'euthanasie, il faudrait quand même un qui soit cause efficace de toutes les morts de tous les autres. Alors je me demande, voyez, c'est pour ça que j'aime d'éclairer l'Apocalypse par la dernière semaine de Saint Jean. La dernière semaine de Jésus sur la terre. Et c'est le terme du pèlerinage de l'Église sur la terre doit se comprendre dans la lumière même de la mort du Christ telle que Jean la montre. Ça donne une très grande lumière. Les hommes, voyez, les hommes menés par le démon. Le démon n'a qu'un seul désir, c'est que les hommes eux-mêmes détruisent notre univers. C'est le désir le plus profond du démon. Ne lui demandez pas, c'est pas la peine. Je vous le dis, croyez-moi. Démon a comme désir, mais le désir foncier, que les hommes eux-mêmes détruisent l'univers. Dieu a dit que ce n'est pas lui qui mettra un terme, l'arc-en-ciel, avec Noé. Dieu ne fera plus de déluge. Dieu supportera les imbécilités des hommes. Les grossièretés des hommes, les affronts, les blasphèmes, Dieu supportera ça patiemment. Il n'y aura plus de déluge. C'est dit. Dieu se lie les mains. Le mystère de la croix. La toute-puissance de Dieu, exprimée par les bras du Christ, sont liés sur le bois. Et le démon est persuadé que c'est lui. Autrement dit, dans ce duel de la croix, le démon l'emporte. La toute puissance de Dieu est ligotée au bois. Les mains du Christ, les mains, expriment la toute puissance du Père. Le doigt du Père, sur lequel sont inscrites les tables de la loi. Les doigts du Père sont cloués. Ils ne peuvent plus agir. Dieu ne peut plus façonner le corps de l'homme comme un potier. Dieu ne peut plus faire le geste du chirurgien. Il est immobilisé. C'est très très beau ça. Pour comprendre ce que c'est que la recréation. Elle ne se fait pas comme la première création, par le geste du potier et le geste du chirurgien. Elle se fait par la blessure du cœur. Et dans la blessure du cœur, et l'eau et le sang. C'est une recréation dans l'amour. Et c'est quelque chose de très grand, ça. Dieu ne mettra pas de fin par lui-même à notre univers, Mais l'homme, sous la mouvance du démon, selon le symbolisme de l'Apocalypse, chapitre 13, la bête de la mer et la bête de la terre, c'est l'homme sous la mouvance du démon. Eh bien, l'homme sous la mouvance du démon arrivera un jour à leur hache, à la destruction de cet univers. J'en suis sûr, ça. Je ne dis pas que nécessairement ce sera comme ça. C'est une opinion théologique. C'est pas de foi. Mais si je rassemble les textes, c'est comme ça qu'on doit comprendre. Et ça ne peut pas se comprendre autrement. Donc, c'est l'homme qui minera. On peut miner. C'est-à-dire que tout, un jour ou l'autre, saute. Que tout, un jour ou l'autre, devienne impossible. Vous voyez, là, on peut très bien faire que l'atmosphère soit viciée d'une manière telle, polluée d'une manière telle que l'homme ne puisse plus respirer, qu'il attrape le cancer, que les gosses attrapent le cancer dans les villes. Ce qui est vrai dans les villes peut s'étendre. Avec la désagrégation de l'atome, on ne sait pas ce qu'on fait. L'univers est devenu le laboratoire. Et on ne vous a pas demandé la permission. Du moins, on ne me l'a pas demandé à moi. Et on a fait ce petit jeu, et on continue de le faire. L'univers est le laboratoire de l'homme. Au point de vue biologique, la pilule, on ne sait pas. On ne sait pas du tout quelles peuvent être les conséquences. Laboratoire. L'homme joue. Il joue un jeu universel. Sans se poser la question, est-ce que j'ai le droit de faire ça pour mon voisin? Est-ce que je le respecte? Quand je vicie l'atmosphère, est-ce que je respecte mon voisin? Parce qu'il sera bien obligé, lui, de respirer le même air. Et c'est pas lui qui l'a vicié, c'est moi. Et je le condamne comme ça. Et s'il a des poumons plus fragiles que moi, il mourra avant moi. Et c'est moi qui en ai la cause. Quand il y a eu à Stockholm, c'est pas vieux, j'y ai pas été, j'avais un de mes amis qui est dans la diplomatie. Les philosophes doivent avoir des amis partout. J'avais un ami qui était dans la diplomatie et il a l'immense privilège d'être dans la diplomatie du Liechtenstein. Vous voyez, on a tous les droits sans avoir aucune responsabilité. C'est merveilleux. C'est un tout petit état, rien du tout. Alors, il peut y mettre des timbres-poste. Tous les collectionneurs doivent avoir des timbres de cet endroit-là. Et c'est pas Liechtenstein qui envoie toutes les lettres. On envoie tout. C'est très intéressant de regarder l'évolution d'un petit état comme ça, autonome. Sa liberté. Et donc, ces diplomates, un de mes amis était là. Il m'a raconté comment ça s'était fait. C'était une question sur la pollution. C'était encore du temps de Mao. Alors, les Maoïs sont arrivés en uniforme, habillés tous de la même manière, vous voyez bien. Ils ont posé la question tout de suite. Les premiers, la science est-elle pour l'homme ou l'homme est-il pour la science? En disant, si nous ne sommes pas d'accord là-dessus, c'est pas la peine de continuer. Personne n'a répondu. Ah, je trouve ça extraordinaire. Pollution de l'air, pollution de la mer, de la Méditerranée, pollution. La science est-elle pour l'homme ou l'homme est-il pour la science? Question élémentaire. Mais parce qu'elle est élémentaire, on n'ose pas y répondre. Parce qu'on est tous plus ou moins liés. Vous voyez, je mets ça, c'est parce que c'est là où on voit comment les situations se dégradent progressivement. Alors, dans quelle mesure cette dégradation va-t-elle aboutir à un désordre tel que l'homme ne pourra plus vivre sur cette petite planète ? Alors, c'est difficile d'aller dans une autre planète, hein, parce qu'on ne sait pas l'atmosphère qu'il y a. Dans la Lune, impossible. On ne peut pas mettre une résidence secondaire dans la Lune. Parce qu'on doit emporter son atmosphère. Or, si c'est l'atmosphère qui est viciée, vous comprenez bien, vous emporterez le vice avec. Je crois que l'humanité menée par le démon, et aujourd'hui, le démon ne le cache plus. Il démasque son jeu. Parce qu'il est sûr du succès. Autrement, il le cacherait. Le signe qu'il est sûr, c'est pour ça que je dis, les dés sont peut-être déjà joués. Je n'en sais rien, vous non plus. Mais pour que le démon se démasque de cette manière, il faut qu'il soit déjà sûr. Que, de fait, les hommes ont manipulé l'univers d'une façon telle il ne faut plus attendre que les conséquences. Et c'est joué. Les hommes ont tout fait, comprenez bien, les hommes ont tout fait pour que Jésus meure sur la croix. Et Jésus a devancé lors de sa mort, librement, pour bien montrer qu'il mourait librement. Mais les hommes ont tout fait. Il suffisait d'attendre un peu plus. Mais Jésus a devancé la mort. Il l'a devancé de façon telle qu'il a eu le grand cri pour bien montrer qu'il était libre et qu'il ne mourrait pas comme quelqu'un qui n'en pouvait plus. Le dernier soupir. Le dernier soupir, ce n'est pas un grand cri. C'est le dernier soupir. Tandis qu'il y a eu le grand cri. Cet homme n'était pas comme les autres devant ce cri. Bien, je crois que c'est très significatif, ça, voyez, pour moi. C'est très significatif. Les hommes feront tout pour briser l'atmosphère, l'ordre qu'il y a dans l'univers, pour que l'homme puisse vivre. Ils l'ont peut-être déjà fait. Mais, alors ça, mais Dieu, le Christ, reviendra avant que l'univers meure de cette mort voulue par la bête de la terre et la bête de la mer. Comme le Christ a offert sa vie avant que les dégâts de l'œuvre des hommes se soient réalisés. Et il faut réfléchir à ça. Parce que ça, c'est la grande lumière de la sagesse de la croix. La grande lumière de la sagesse de la croix doit nous éclairer actuellement sur ce que nous vivons. Mais ce progrès de l'homme, comme on appelle ça le progrès, ce progrès de l'homme au point de vue de la science et de la technique, il n'a plus de finalité humaine. C'est le progrès de la science pour la science. C'est le progrès de la technique pour la technique. Alors la science est-elle pour l'homme ou l'homme est-il pour la science? Est-ce que vous offrez librement votre vie pour le progrès de la science? Ah, j'accepte, oui, oui, très bien. Que je sois asphyxié, que je ne puisse plus respirer, ça va d'abord le progrès de la science. Puis ce progrès de la science sera pour qui? Pour personne. Puisque le progrès de la science tue l'homme. Il faut quand même voir les choses nettement, dans un réalisme très grand. Ce n'est pas du tout le désespoir pour nous chrétiens. Le Christ reviendra dans sa gloire. Alors on a tous envie de dire, pas tout de suite quand même. Hein. C'est curieux ça, c'est très très curieux. On a un petit peu la peur des pas de Dieu, comme Adam et Ève après le péché. On entend les pas de Dieu, hein. On les entend. Il suffit de prêter un tout petit peu l'oreille. On entend les pas de Dieu. Il revient bientôt. C'est-à-dire pas tout de suite, alors on se cache derrière l'arbre, on gagnera peut-être 5 minutes. Tellement on a peur. C'est curieux, c'est curieux. Alors que tout en nous, au point de vue chrétien, appelle le retour du Christ. On a un illogisme. Des mythes. C'est toujours un peu quelque chose de mythique en nous, vous savez, quand on compare le point de vue humain, le point de vue divin. Je dis ça parce que je crois que c'est très beau, c'est très grand. La croix est sagesse. Et donc elle nous éclaire sur tout. Quelle est la part de volonté dans la mort de Jésus? Je viens de vous le dire. Il remit librement, amoureusement, dans un dernier acte d'amour, dans une dernière expérience d'amour, il remit librement, amoureusement, sa vie dans les mains du Père. Alors nous continuons, après avoir répondu à ces questions. Mais vous voyez, j'ai répondu un peu longuement parce que tout touche le mystère de la sagesse, de la croix. Alors, peu importe l'ordre. Alors nous allons continuer à essayer de comprendre mieux ce grand mystère de la croix. Et je voudrais maintenant, tout de suite avec vous, revenir sur ces deux aspects. Parce que c'est très important que je signalais en terminant. Je disais de façon humoristique l'aspect journalistique et l'aspect intérieur. N'oubliez jamais ça. La croix vue du côté du démon. La croix vue du côté du Père. Nous avons la possibilité de regarder ces deux aspects. La croix vue du côté du serpent antique, du dragon, de Satan. Et la croix vue du côté du Père. Nouvelle sagesse. La nouvelle sagesse qui est folie et scandale pour l'homme. Vous voyez, les trois horizons. Satan, le Père, l'homme. On pourrait faire un audiovisuel sur la croix. On aurait les trois visions. L'homme, la croix pour l'homme, comme homme, puisque je distingue l'homme comme homme, c'est-à-dire le philosophe. Et l'homme, fils de Dieu. Non, je devrais mettre comme ça pour que ce soit plus en harmonie. Hein. Vous allez voir. L'homme, fils de Dieu. Fils du Père. L'homme capable d'être l'allié du démon. Il y a toujours en nous quelqu'un qui fait des petits contrats la nuit, dans les ténèbres, avec le démon. Il y a en nous quelqu'un, saint Paul le dit, il y a en moi deux hommes. Le Fils de Dieu, le Fils du Père, et puis celui qui est lié à Satan. Et Satan voudrait beaucoup que ce soit son fils, fils de Satan. Il ne l'est pas, il ne l'est pas heureusement. Il voudrait. Celui qui est tenté, celui qui est mu par le démon, la bête de la terre et la bête de la mer, avec le langage de l'Apocalypse. L'homme qui réfléchit sur l'homme, l'homme au plan philosophique. Vous voyez les trois visions. Alors, la croix de Jésus. Pour l'homme philosophe, la croix est folie et scandale. Même sur des croyants, l'homme demeure. La croix, quand elle s'implante dans notre vie, c'est folie et scandale. Et ça demeure toujours folie et scandale. Pour le démon, la croix, c'est une victoire. C'est une victoire. Il est victorieux. Enfin, on l'a eu. Enfin. Et pour tous ceux qui sont fils de Satan, donc la bête de la terre et la bête de la mer, alors on pourrait mettre des noms. Vous voyez, toutes les idéologies athées. Toutes les idéologies athées. Et tous ceux qui sont liés aux idéologies athées, bête de la terre et bête de la mer, la croix et la victoire du démon, n'en parlons plus. Construisons notre monde humain. Pour le Père, la croix est la grande victoire de l'amour. Victoire apparente. Mais le démon ne regarde pas apparente. Vous comprenez bien. Je vous fais ce petit chaîne, c'est ce que saint Thomas fait. Il ne fait pas comme ça. Mais l'analyse que fait saint Thomas, ça correspond à ça. Et ça correspond à toute la grande vision des pères de l'Église. C'est pas moi qui fais ça. C'est la grande vision chrétienne sur la croix. Alors, comprenons. La croix est de fait. Selon les apparences. Elle est donc l'échec. Donc le démon, c'est sa victoire et c'est l'échec du Christ. C'est l'échec, total, puisque c'est la mort. Et la mort, qui unit toutes les morts. Toutes les morts se sont rassemblées là. C'est l'échec le plus absolu qui soit. Vu sociologiquement, psychologiquement. C'est l'échec le plus absolu qui soit. Je vais énumérer, et vous n'avez qu'à faire vous-même la petite analyse. Il y a la mort. Évidemment, la mort, c'est un échec terrible. Hein, parce qu'on ne peut pas reprendre la mort. Quand quelqu'un est tué, quand il est mort, Donc, c'est l'échec substantiel. L'échec substantiel, c'est au niveau de la vie. C'est la brisure de la vie. On ne peut pas recommencer. Il y a l'échec au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour d'amitié. La trahison de Judas. Quand un ami trahit. Quand un ami livre les secrets. En leur donnant un sens qui est juste l'inverse du véritable sens. Parce que c'est ça la trahison. C'est la mort du cœur. Puisque l'amour porte ses secrets. Et la trahison, c'est toujours la mort des secrets. On livre un secret en lui donnant une signification tout autre. Donc la mort du cœur. Il y a la mort du cœur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la mort politique. Il y a la mort religieuse. Reste, ça se tient. Il meurt comme un esclave. Et il meurt à la manière d'un esclave, c'est-à-dire crucifié. Seuls les esclaves mourraient crucifiés. Il meurt dans le lieu où les esclaves meurent. Le Golgotha. Il meurt là, le lieu du crâne. Père de l'Église souligne le lieu le plus fétide qui soit, puisqu'on laissait les cadavres là, ils pourrissaient là. C'est un lieu terrible, le lieu du crâne. Et il meurt de cette manière, en compagnie de criminels. On préfère Barabbas. Donc la mort à l'égard de toute la renommée, de la fama, de la bonne renommée qu'on peut avoir. C'est encore une mort. Quand on vous piétine et qu'on proclame que vous êtes un criminel. Toutes les morts sont présentes. Toutes les morts sont présentes. Il meurt en portant sur lui la responsabilité d'esclaves et de tous les pécheurs. Toutes les morts sont présentes. C'est donc l'échec à 33 ans. Un seul apôtre, un seul disciple sur 12, un seul disciple fidèle. C'est, il faut bien regarder ça. C'est l'échec le plus absolu. Extérieurement. Dans la vision du démon. Et ça, c'est l'œuvre du démon. C'est l'œuvre du démon. Le démon est venu tenter Jésus au désert. Jésus l'a renvoyé. Pas Dieu. Et le démon ne s'avoue jamais vaincu puisqu'il est orgueilleux. Alors quand il est chassé, il va revenir avec ses satellites, la bête de la terre et la bête de la mer. La bête de la mer, c'est Judas. La bête de la terre, c'est les grands prêtres. C'est Pilate. Tous ceux qui ont le pouvoir. Ça, c'est l'œuvre du démon. Avec ses satellites. Il a fait cette œuvre. C'est vrai. C'est l'échec le plus total qui soit. Il faut souvent penser ça. Et le démon considère que c'est sa grande victoire. ricanement du démon à la croix. Enfin, il se tait. Il ne va plus parler. Mais comme si le logos divin devait se taire. Démuselé par le démon. Arrêté par le démon. Du côté du Père, Jésus obéit. Donc, il entre dans les intentions du Père. Le regard du Père sur Jésus, c'est un regard de sagesse. Sagesse de la croix, sagesse d'amour. Le Père demande à Jésus de terminer sa vie dans ce grand holocauste de la croix. Où lui-même est la victime. C'est le corps du Christ qui est brûlé, qui est offert en état victimal. L'Holocauste. Dans un acte d'adoration, tout est fait dans l'obéissance. Mais le contenu de cette obéissance, c'est une adoration qui va impliquer le sacrifice, qui va impliquer l'Holocauste. Et Jésus offre sa vie en holocauste d'amour pour glorifier le Père et nous sauver. Dans l'obéissance. Du côté du Christ, dans le cœur de Jésus, l'œuvre de la croix, c'est la grande victoire de l'amour. C'est une grande victoire de l'amour parce qu'elle assume. Elle assume tous les échecs humains. Tous les échecs humains sont du dedans, porté, transformé, pour devenir des signes, des manifestations d'amour. Vous voyez, ça c'est l'alchimie divine de la croix. Je vais étonnante. Oui, le démon ne voit que l'échec, et tous ces échecs sont portés de l'intérieur, sont transformés de l'intérieur par l'amour et sont offerts en signe d'amour. Tous les échecs. Oui, l'amour victorieux de la mort, l'amour victorieux du péché, l'amour victorieux de la trahison, l'amour victorieux de tout, toutes les morts sont portés du dedans, par la plénitude d'amour du cœur de Jésus, et dans une attitude d'obéissance. Là, nous comprenons comment l'amour divin qui est dans le cœur de Jésus se sert de toutes ces morts pour cette grande victoire de l'amour. Parce que cette mort du Christ, victoire de l'amour, va se manifester, cette victoire de l'amour va se manifester dans le mystère de la glorification du corps du Christ, dans le mystère de la résurrection. Là est manifesté d'une façon éclatante que la croix est une victoire, et une victoire de l'amour. Mais sur la terre, cette victoire est cachée. Elle sera cachée jusqu'au sépulcre. Vous voyez, et même le sépulcre. Il y aura des soldats qui seront là pour empêcher qu'on puisse s'approcher. Il y a une mainmise sur le cadavre du Christ. On n'a pas respecté le cadavre de Jésus, le coup de lance. Normalement, on doit respecter un cadavre. Pour que Jésus connaisse la plus grande humiliation, c'est le non-respect à l'égard du cadavre. Et la possession du cadavre du Christ avec les soldats. C'est le mystère de la croix. Quand on essaie de l'analyser au plan théologique, c'est fou. Tout ce qui est impliqué dedans, c'est l'acte de l'homme-Dieu. Seul l'homme-Dieu peut réaliser un acte comme celui-là. Et tout est à son paroxysme. Vous voyez, jusqu'au signe extérieur, le voile du temple est déchiré. Les ténèbres. Pour montrer l'ébranlement de notre cosmos, de notre petite terre, par ce mystère de la croix du Christ. Nous avons très peu ce sens que la mort du Christ touche l'équilibre du cosmos. Pourtant, c'est signalé, si Jésus est le roi du monde, le roi des hommes, c'est normal que la brisure faite avec une telle violence de fait, assumée par l'amour, mais la brisure demeure. Les souffrances demeurent. Et cette mort est dans la plus grande souffrance qui soit, la souffrance du crucifié. La plus grande souffrance qui soit à cause de la sensibilité du Christ, toute semblable à celle de Marie. Et à cause de la conscience, et à cause de l'intensité d'amour avec lequel Jésus réalise cela. Ce qui fait entrer dans ce mystère, victoire cachée. L'amour est victorieux de la souffrance. Cela, il suffit de regarder le mystère de la croix pour le comprendre. L'Apocalypse nous donne ce regard et nous montre comment Satan est présent à la croix. L'évangile de Jean nous montre le regard du Père et le silence du Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et saint Paul nous rappelle que la croix est sagesse, mais elle est folie et scandale. Pour l'homme comme homme. Alors, dernière interrogation. Pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a-t-il voulu que le salut de l'humanité se fasse en se servant de la mort, en se servant de la souffrance, en se servant de la douleur, en se servant de la trahison, en se servant du rejet politique, en se servant du rejet religieux, on l'a considéré comme un blasphémateur. Pourquoi pourquoi cette tension si grande, ce drame, ne peut pas aller plus loin. Tout est à son maximum. Pourquoi cela? On a le devoir de se poser la question. Il n'y a qu'une seule réponse. C'est pour que Dieu, amour, soit manifesté. C'est à la croix que l'amour du Père nous est manifesté. Tout cela, c'est pour que l'amour puisse être communiqué de la manière la plus intense qui soit, la plus forte qui soit, pour que l'amour soit manifesté de la manière la plus manifeste. Comprenons cela. Humainement, qu'est-ce qui vient lutter contre l'amour? La mort, la souffrance. Qu'est-ce qui lutte contre la victoire de l'amour? La pauvreté. Qu'est-ce qui semble lutter contre l'épanouissement le plus parfait de l'amour? L'obéissance et l'obéissance de la croix. Alors pourquoi cette alliance à la croix entre l'amour et la pauvreté, entre l'amour et la souffrance, entre l'amour et la mort, entre l'amour et la trahison? Pourquoi cette alliance? C'est pour que le cœur de Jésus soit l'instrument le plus parfait de l'amour divin pour nous, de la communion et de la communication de l'amour divin, du don de l'Esprit Saint. C'est pour cela. On met du temps à le comprendre. Pas étonnant, hein? Parce qu'à première vue, on ne voit pas très bien comment l'amour, pour être plus intense, s'allie à la pauvreté. Les vieux Grecs le disaient. Et donc, humainement, on peut le comprendre. Platon dit que l'amour naît de la surabondance et de la pauvreté. Il dit ça dans Le Banquet. Un des très grands moments de la philosophie grecque. Un des moments les plus étonnants. La naissance de l'amour. Eh bien, l'amour naît de la surabondance et de la pauvreté. Et c'est vrai. Pour que l'amour puisse aller jusqu'au bout, dans le cœur de l'homme, il réclame la pauvreté. Pauvreté intérieure, comprenez bien. Parce que dès que vous accaparez l'amour, c'est plus l'amour. L'amour demande d'être gratuite et de jaillir toujours comme le premier amour. Et donc toujours avec une ferveur. Et pour que cette ferveur existe, il faut la gratuité. Alors on comprend, quand il s'agit de l'amour divin, qui est encore plus amour, puisque c'est un amour substantiel. On comprend comment Dieu, dans sa sagesse, a voulu que la communication de cet amour se fasse en l'extrême pauvreté. Jésus à la croix est dans une petitesse, une pauvreté plus grande que Jésus à Bethléem. Et Dieu a choisi cet état de pauvreté de la croix pour que l'humanité sainte du Christ devienne l'instrument le plus parfait, le plus merveilleux, le plus adapté à la communication de l'amour, au don de l'Esprit Saint. On sait très bien, humainement parlant, que l'amour, pour être parfaitement amour, réclame la souffrance. Un amour qui n'a été que joyeux, c'est très beau, c'est un printemps, on dit que c'est un printemps. Il risque toujours de rester un peu extérieur, il ne peut s'enraciner que s'il y a la souffrance. Oh, on ne la provoque pas exprès. Hein. Je t'aime donc je te fais mal. Pour que tu aimes mieux. Parce que jusque-là, tu aimes que d'une façon très superficielle. On ne peut pas faire ça. Hein. Ce serait sadique. Mais Dieu s'en charge, je vous affirme. Parce qu'il nous aime beaucoup. Alors le Père taille bien. Et la taille du Père, nécessairement, vous savez bien, quand vous taillez la vigne, il y a des pleurs. La sève pleure. La taille du Père. Et la taille du Père permet à l'amour de pouvoir se communiquer plus. C'est vrai au point de vue humain, mais c'est infiniment plus vrai dans l'ordre surnaturel. Et ceci est tellement vrai que la personne que Jésus aime le plus, Marie, sera présente à la croix. Et elle sera brisée à la croix, brisée de souffrance dans sa compassion, pour qu'elle puisse être instrument d'amour. Dieu brise ses instruments pour qu'ils soient instruments d'amour. Et quand ils sont brisés, ils ne sont pas très séduisants. Un objet devant lequel on se voile la face. Pour qu'ils soient instruments d'amour et puissent coopérer à l'œuvre de la croix. Voyez comme c'est mystérieux, hein. Toutes les souffrances de la croix, c'est pour que l'amour puisse être plus communiqué et davantage.